Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Corentin Mansois, et ainsi que Maïder Gérard et Marguerite Caton, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Alexandre Dang. Troisième temps de notre série consacrée au sauvetage de la planète. Après avoir parlé de l'Union européenne lundi, de la finance hier, on va se demander si finalement les mieux placés pour sauver, pour défendre l'environnement ne seraient pas les sociétés civiles.
Au quotidien, qui j'ai pour me défendre? Est-ce que j'ai une société structurée qui descend dans la rue pour défendre la biodiversité?
On marche pour montrer que les citoyens sont mobilisés, prêts à agir et à prendre leurs responsabilités.
Et on espère que ce ne sera pas le premier ni le dernier mouvement. Et qu'il y a beaucoup de monde qui va nous rejoindre petit à petit spontanément, qui vont descendre et qui vont se dire bah en fait ça me concerne. Et il n'y a pas de raison que ce soit que les politiques qui décident pour moi de ce qu'on doit mettre en place. J'ai mon mot à dire, donc je descends dans la rue.
Lorsque j'ai commencé à manifester, je ne m'attendais pas à ce qu'il se passe quoi que ce soit. Je n'aurais jamais imaginé que cela prendrait une telle ampleur. Est-ce qu'il y a trop de pression sur nos épaules? Oui. Nous, les enfants, nous ne devrions pas avoir à faire ça. J'aimerais que les adultes prennent leurs responsabilités et le fassent à notre place. Mais dès lors que personne n'agit, nous devons le faire.
Ces propositions-là, elles sont sur la table depuis 30 ans. Elles sont portées par nombre d'ONG et par nombre de citoyens qui attendent qu'une chose, c'est qu'effectivement les engagements qui ont été pris et que les idées qui sont aujourd'hui posées sur la table soient mises en œuvre.
Ai-je une société structurée qui descend dans la rue pour défendre la biodiversité ? Demandait Nicolas Hulot le 29 août dernier en annonçant sa démission du gouvernement. 10 jours plus tard, le 8 septembre, démarrait en France la première marche pour le climat. Depuis, ils sont des milliers à se mobiliser chaque mois en France, mais aussi en Belgique, en Suisse, en Italie ou encore aux Pays-Bas. Et les lycéens aussi s'y mettent avec ce mouvement inédit de grève scolaire et de manifestation à l'appel de la jeune Suédoise Greta Thunberg. Et tandis que certains prennent la rue, d'autres choisissent la voie des tribunaux. Le 14 mars dernier, 4 grandes ONG déposaient un recours contre l'État français pour inaction face au réchauffement, une action baptisée l'affaire du siècle. Saisir la justice pour forcer les responsables à agir pour l'environnement. Voilà un mode d'action qui se démocratise un peu partout sur la planète. Alors toutes ces actions sont-elles le signe d'un réveil, peut-être même d'un sursaut de la société civile sur la question du réchauffement climatique? Les personnes qui prennent la rue et se mobilisent sont-elles de nouveaux venus, récemment conscientisés aux causes environnementales ou bien des militants de longue date? Les nouveaux modes d'action comme le recours à la justice suffiront-ils à faire pression sur les gouvernements ou faut-il désormais enfreindre la loi pour faire bouger les lignes? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. D'abord Mathilde Autereau-Boutonnet, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de droit à l'université Jean Moulin Lyon 3, une spécialiste du droit de l'environnement. Et c'est évidemment un sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. À vos côtés, Denis Chartier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous géographe, professeur à Paris 7, Denis Diderot. D'abord, sur ce sursaut des sociétés civiles, de façon un peu générale, est-ce que vous diriez qu'on assiste enfin à un sursaut des sociétés civiles? Est-ce qu'on a franchi, vous semble-t-il, une étape dans la mobilisation contre les dérèglements climatiques? Est-ce que vous sentez qu'il se passe quelque chose? On va commencer avec vous, Denis Chartier.
Alors, c'est très clair qu'il y a quand même quelque chose qui se passe en termes de mobilisation et de prise de conscience globale. Je pense qu'on est passé dans autre chose. Si on se projette, il y a encore même 10 ans... Je dis 10 ans parce que c'était Copenhague en 2009, où là il y a eu une prise de conscience aussi d'une certaine inefficacité des modes de lutte traditionnels portés par la société civile. Bon, il y a quelque chose qui se passe. Toutes ces marches, tous ces mouvements, ces jeunes qui tous les vendredis se positionnent contre le climat, ça c'est très clair qu'on a un mouvement. Après, reste à savoir si tout ça si cette prise de conscience globale, cet état des lieux de mobilisation plus importante qu'on pouvait avoir encore il y a quelques années amène une vraie réponse,
un vrai changement. Votre impression, Mathilde Autereau-Boutonnet, est-ce que vous aussi vous diriez qu'il se passe quelque chose? Ça fait 40 ans que les scientifiques nous alertent sur les effets du dérèglement climatique. Est-ce qu'il vous semble que là, ça y est, quelque chose est parti et durablement parti? Et qu'est-ce qui, le cas échéant, qu'est-ce qui vous semblerait avoir déclenché le mouvement?
Bon, alors que la société civile agisse, elle a toujours agi. Donc, je pense que les mouvements citoyens en faveur de l'écologie ne sont pas nouveaux. Ce qui me semble davantage intéressant, en tout cas du côté du droit, là, c'est mon regard davantage de juriste, c'est le fait que le mouvement est mondial. Donc évidemment, on voit cette société civile qui se mobilise à travers le monde, parfois même certainement à des endroits où elle n'était pas suffisamment mobilisée. Et ce qui est intéressant, peut-être que Denis Chartier m'approuvera sur ce point, c'est le fait que cette société civile, elle ne se mobilise pas uniquement dans la rue. Donc au-delà des manifestations, cette société civile, elle se retrouve devant les tribunaux. Donc elle fait appel au droit, elle va devant le juge pour espérer que le droit réponde finalement à une demande qu'elle n'arrive pas à obtenir, en tout cas les réponses qu'elle n'arrive pas à obtenir face à l'État. Donc c'est ça qui est vraiment très impressionnant, c'est l'ampleur de la mobilisation, j'allais dire, juridique de cette société civile. Ce ne sont pas seulement des slogans dans la rue, c'est des slogans juridiques devant les tribunaux. Ouais. Et là, j'allais dire dans pratiquement tous les pays, tous les pays du monde.
Il y a effectivement de nouvelles formes de mobilisation et on voit dans ces contentieux climatiques, on y reviendra assez largement. Denis Chartier, si on regarde le cas de la France, c'est intéressant de se demander au fond pourquoi est-ce que ça se passe maintenant. C'est pas tout à fait un hasard si on a mis dans notre petit montage sonore la démission de Nicolas Hulot. Est-ce que vous établissez un lien de causalité entre sa démission et peut-être une forme de sursaut de la société civile française en l'occurrence? Jusqu'où est-ce qu'on peut lier les deux? Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe.
Oui, je pense qu'effectivement il y a un lien. C'est surtout que la démission de Hulot, en fait, elle marque peut-être pour certains qui croyaient à sa capacité d'action au gouvernement, elle marque en fait un échec, un échec d'un certain entrisme, une tentative de réforme de l'intérieur, de politique économique, sociale, etc., qui sont quand même toujours axés autour de la croissance, des modèles en fait qui touchent très clairement leurs limites. Et je crois qu'il y avait une certaine naïveté peut-être politique de Hulot de penser qu'il allait pouvoir à l'intérieur bouger les lignes.
Et donc ça veut dire que c'est aussi le résultat de la reconnaissance d'une forme d'échec de l'écologie politique aussi.
Oui, et je dirais également
Mathilde Autreboutenay.
Une forme de connaissance. La société civile s'informe, elle est informée. Il est évident que vous avez eu des symboles également importants. L'accord de Paris a été extrêmement médiatisé, donc les gens sont en attente. Et puis, et évidemment, le rapport du GIEC. Le rapport du GIEC a été très médiatisé. Donc là aussi, on prend conscience finalement de la société dans laquelle on vit et dans laquelle on ne peut plus vivre, ou on ne veut plus vivre. Donc, les personnes que l'on retrouve dans la rue, ce sursaut, c'est vraiment, je pense profondément, une demande de changement de société.
Est-ce qu'on sent que, justement, ça dépasse, Denis Chartier, le seul cercle des ONG, des associations et autres militants de la cause écologique? Est-ce qu'on sent que ce sujet-là est en train réellement de se diffuser dans l'ensemble de la société? Quand on regarde les études d'opinion, il semblerait que les choses sont en train de bouger, effectivement, et que la préoccupation quant aux sujets environnementaux sont en train de devenir le sujet principal pour les opinions publiques. C'est en train de basculer, semble-t-il.
Non, c'est clairement, je pense, en train de bouger. Il y a plusieurs phénomènes. C'est vrai qu'en fait, il y a depuis longtemps les alertes, quand on lit les rapports du GIEC d'il y a 20 ans, en fait, à peu près le même teneur que ceux d'aujourd'hui. Oui. Donc en fait, là, très clairement, on les prend un peu plus au sérieux. Je pense qu'on les prend au sérieux aussi parce qu'on est très... On peut presque clairement ressentir les changements.
C'est-à-dire bien que perceptible à nos sens.
C'est bien perceptible par nos sens, oui. C'est quelque chose d'assez important. Et je crois que et il y a aussi une dimension, en fait, on est quand même dans un moment de crise multiple. Et je pense qu'il y a un ressenti, et les gens ressentent bien que tout est un petit peu interconnecté et lié. Et je pense que le mouvement des Gilets jaunes, qui est parti un peu, pas tout à fait sur cette question-là aujourd'hui, est aussi un mouvement qui a essayé d'embrasser cette question-là. D'ailleurs, sur ce point-là, peut-être que c'est assez symbolique de la façon dont c'est en train de diffuser dans la société. Il y a des tentatives, en tout cas, de faire des ponts très très clairs entre tous ces mouvements. Je pense qu'il y a eu il y a quelque temps un débat qui s'appelait le débat avant la fin du monde le 24 avril dernier au théâtre de l'Échangeur, qui était organisé entre autres par la Revue Terrestre et qui essayait de faire des ponts entre ces mouvements, entre les mouvements des marches climatiques, etc. Et pourquoi? Parce que tout le monde se dit, bon, en fait, on est tous ensemble. Il y a une vraie question qui nous touche absolument tous. Et il faut trouver des moyens et des moyens d'action qui soient plus efficaces. Et ça pose la question.
C'était une convergence qui était parfaitement incarnée par ce slogan « Fin du monde, fin du mois, même combat ». Il y a un autre, peut-être, mouvement sur lequel je voudrais qu'on se penche un tout petit peu, qui n'est pas un mouvement français, qui nous vient de la Grande-Bretagne, c'est Extinction Rebellion. C'est un mouvement qui est né en décembre dernier du côté de la Grande-Bretagne et qui vise à susciter un changement assez radical par le biais justement d'actions assez directes et de résistance non violente. Un tout petit extrait, vous allez voir, d'une personne justement qui s'est mobilisée dans ce mouvement et puis on en reparle juste après.
Aujourd'hui, le plan est surtout de bloquer plusieurs ponts ici à Londres et de manifester pacifiquement pour attirer l'attention sur le fait que nous sommes proches de l'extinction. Ça vous concerne, ça me concerne, ça concerne tout le monde. Nous allons mourir. Chaque jour, 60 espèces disparaissent. Nous sommes sur la route menant à notre propre extinction, et si nous ne faisons rien aujourd'hui, il n'y aura pas de demain ni pour nous, ni pour nos enfants. Aujourd'hui, ça ne tient qu'à nous. C'est notre responsabilité envers notre planète, envers nos concitoyens, envers nos frères, de changer les choses. Maintenant, il est l'heure. Demain, il sera trop tard.
Voilà donc un activiste de ce mouvement Extinction Rebellion, c'était en novembre dernier. Je voudrais que vous me donniez votre regard, Denis Chartier, sur ce mouvement-là, qui est peut-être pas un mouvement comme les autres, et puis qu'on aborde une question qui est centrale dans ce mouvement-là, c'est celui de la désobéissance, parce qu'on voit bien que dans ce mouvement, il y a quelque chose qui vise au fond à se placer un peu à la limite de la légalité, voire carrément à transgresser les lois, et je voudrais comprendre si au fond on a là une lame de fond, et si les mouvements, de façon général, les mouvements de défense de l'environnement sont amenés à aller vers plus de radicalité.
Alors, Denis Chartier. C'est vrai que ce mouvement Extinction Rebellion, il est intéressant dans ce qu'il matérialise actuellement. Je crois qu'il y a le premier point, c'est vrai que cette question de désobéissance civile, elle existe depuis longtemps, en fait. Quand on prend le Greenpeace à son origine, qui est très lié au mouvement Quaker, ce qui va jusqu'aux luttes anti-esclavagistes du fin 19e, début 20e, on a des mouvements qui étaient clairement dans des mouvements de désobéissance, avec des victoires assez importantes pour la question de l'esclavagisme, par exemple, etc. Donc, c'est pas quelque chose de complètement nouveau. Ce qui est très nouveau dans Extinction Rebellion, pour moi, c'est de vraiment mettre ça tout de suite en avant. C'est-à-dire, c'est la première chose qu'on pose, et surtout de dire, en fait, on est dans une telle urgence qu'il faut mettre en fait les responsables de la situation devant leurs responsabilités parce qu'ils les prennent pas. Et on va aussi prendre nos responsabilités par rapport à ça. Et la radicalité, en quelque sorte, dans Extinction Rebellion, qui peut être amenée aussi à des organisations comme Greenpeace au début, etc. On peut revoir des choses un peu similaires, c'est quand même de dire en fait qu'il y a une incompatibilité très claire entre les modes de développement économique et le sauvetage de la biodiversité, la résolution des problèmes, la lutte contre le réchauffement climatique, et que du coup, il faut radicalement changer. On ne peut pas rester dans la même dynamique, et que tous les gouvernants, les entreprises, etc. sont... Elle favorise ces dynamiques-là. Donc, je crois qu'il y a une volonté de dire les limites de la planète ne permettent plus de continuer comme ça. Et c'est maintenant. Donc, c'est la notion d'urgence qui est absolument fondamentale.
Mais est-ce que vous diriez qu'à l'intérieur des mouvements, les rapports de force entre précisément ceux qui prônent d'une certaine manière la désobéissance civile et ceux qui sont contre, parce qu'il y en a aussi, est-ce que le rapport de force est en train de bouger?
Alors, je dirais que, en tout cas, il y a un débat très, très important. C'est-à-dire que ça, c'est le débat. Récemment, j'avais la deuxième fois que je cite cette revue, mais c'est la revue Terrestre, il y a eu un débat entre quelqu'un, Maxime Chédin, un philosophe, qui a écrit un article critique du livre de Cyril Dion, qui était un ouvrage sur un manuel de résistance contemporaine. Et ce débat, il est vraiment très intéressant, parce que Cyril Dion lui a répondu. Et en fait, on voit très bien en fait les différentes modalités d'action qui sont les unes en face les autres. Il y en a une première qui était un peu classique, de contraindre les États et les entreprises à agir sous la pression populaire. C'est ce qu'on fait, c'est ce que font les marches, etc. Ou juridique, d'ailleurs, ça peut aussi être le cas. Il y a ensuite, effectivement, la désobéissance civile comme Extinction Rebellion, mais qui sont quand même assez pacifistes, même si ils commencent à bloquer les ponts. Et ça, c'est intéressant, parce que ça nous amène à un troisième point plus radical, et qui est porté, entre autres, par différentes voix. Je pense à David Holmgren, qui était un inventeur du concept de permaculture, qui était plus... jusqu'à il n'y a pas longtemps pour développer des communautés résilientes en marge du système et voilà, et qu'on allait mettre en réseau et que ça allait faire bouger les choses, et qui maintenant dit la seule stratégie qui visant à mettre à terre le système économique et financier, c'est une crise de 29 en pire, et c'est ça qui va permettre de réduire suffisamment les émissions de gaz. Donc il faut une grosse crise, et puis il y en a qui vont encore plus loin, c'est dire comme Deep Green Resistance, qui dit cette crise il faut la provoquer. Donc on s'attaque au point névralgique des infrastructures, et là ça revient à Extinction Rebellion, industriel, mondialisé, les transports, la communication, la finance, l'énergie, et on provoque la crise. Et là, il y a des débats très forts, parce que vous pouvez dire, provoquer la crise, très bien, de toute façon elle va arriver à un moment ou à un autre, donc peut-être faut-il, s'il y a urgence, il faut la provoquer, sauf que certains disent, oui, on provoque la crise, mais à quel prix? Et c'est peut-être plus la posture d'un Cyril Dion qui dit oui, il y a urgence, etc. Mais en fait, est-ce qu'on peut se permettre aussi de laisser sur le carreau tout un tas de gens? Et certains disent, de toute façon, ils y seront, donc il faut y aller.
À quel prix? Et puis aussi, pour quels effets? Parce que il se trouve que ce mouvement-là a provoqué quelque chose, visiblement, en termes de politique, puisque le Parlement britannique a voté, c'était il y a quelques jours, c'était au tout début du mois, a déclaré l'urgence écologique et climatique, mais reste à voir ce qu'il y aura derrière, effectivement. On est pour l'instant sur de la pure communication politique et on n'a pas encore véritablement d'effet. Mathilde Autoreau-Boutonnet, sur la question de ce glissement vers peut-être plus de radicalité de ces mouvements-là, et aussi sur la question de leur efficacité. Au fond, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que, oui, dans certaines conditions, la radicalité peut amener des résultats, peut-être plus que lorsque l'on reste dans un cadre parfaitement légal? Je m'adresse évidemment à une juriste, j'en suis parfaitement conscient, donc je m'attends un tout petit peu à la réponse, mais je voudrais quand même l'entendre.
Pas nécessairement. En fait, il est vrai que sur ce point, on ne peut pas savoir. On verra bien ce que nous réserve l'avenir. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, ils veulent aller plus vite, finalement, provoquer l'effondrement plus rapidement pour ensuite pouvoir se réveiller et construire une nouvelle société. Alors, est-ce que la désobéissance civile marche? De toute façon, elle a toujours existé. Hein. Le fait d'enfreindre la loi pour pouvoir ensuite proposer un autre système, ce n'est absolument pas nouveau. Et puis là, on retrouve toute la mouvance de ce qui existe déjà dans la protection de l'animal et les associations qui entrent dans les laboratoires.
Mais justement, puisqu'elle n'est pas nouvelle, quand on refait un peu l'histoire de ces luttes, est-ce qu'on peut dire que lorsque désobéissance civile il y a, oui, effet il y a derrière?
Oui, ça peut arriver, effectivement. Regardez tout le mouvement des droits de la femme. Vous avez eu des désobéissances civiles importantes. Mais si vous voulez, moi, ce que je pense sur effectivement ce mouvement, c'est que le but, quand on désobéit, c'est effectivement d'être davantage médiatisé. Donc, c'est véritablement de porter le fait visiblement qu'on commet des infractions, qu'on entre dans des lieux privés, qu'on ne respecte pas la liberté d'entreprendre, etc. Et peut-être même, pour aller encore plus loin, le but, c'est bien sûr d'être jugé, s'il y a poursuite. Parce que quand on est jugé, on a encore plus peut-être de médiatisation, donc on peut porter son discours, on peut faire comprendre, pas seulement au juge, mais à la société civile que c'est important, donc on embarque encore plus peut-être la société civile, et puis parfois on a même l'espoir, mais là effectivement c'est très compliqué, que le juge accepte, alors en droit on appelle ça la justification de l'infraction, par un état de nécessité, le fait qu'il est nécessaire de se comporter de cette manière. Alors après, je ne suis pas nécessairement certaine que ce soit plus efficace que des actions qui respectent le droit et qui font valoir le droit pour justement l'appliquer. Parce que les normes, elles existent.
On va évidemment y venir dans quelques instants, mais Denis Chartier, toujours sur cette question de l'efficacité et à l'aune, évidemment, de l'histoire, peut-être, des luttes pour la défense de l'environnement, de la lutte contre le dérèglement climatique, etc., etc. Est-ce qu'il y a effectivement des cas de désobéissance civile assez notables qui nous permettent de dire, oui, il y a une efficacité plus grande lorsqu'on a recours à la désobéissance civile? Vous hésitez?
Ouais, j'hésite.
C'est déjà,
j'hésite parce
une réponse.
Que, en fait, je crois que pour moi, la question, c'est que c'est souvent, en fait, il y a plusieurs modes d'action qui fonctionnent ensemble et qui vont permettre, en fait, un mouvement. Et je pense que, très clairement, Greenpeace, ils ont c'était pas des questions de désobéissance, mais ils ont quand même mené des actions, illégales, etc. Et ça a tenu pendant très longtemps des questions, ne serait-ce que ça, aux agendas politiques, hein, mais parce qu'elles n'étaient pas encore tout à fait en haut de l'agenda. Voilà. Après, moi, je pense que il y a pour moi quelque chose autour de la désobéissance civile, c'est aussi à l'endroit où on peut le faire. C'est-à-dire que par rapport à Extinction Rebellion, je pense qu'il y a quelque chose de, c'est au début, hein, en Angleterre, il y avait quelque chose en disant on va aller en prison, quoi. On n'a pas peur d'aller en prison, on peut le faire, etc. Et quand, si on, je pense qu'il faut voir qui.
On expliquait même, pardon de vous couper, on explique même aux militants, comment il faut agir en cas d'arrestation.
Oui, ça, c'est depuis longtemps, il y a des formations, etc.
Absolument.
Mais ça, c'est possible. C'est possible dans certains endroits en Europe, etc. Quand on est en plus blanc, etc. Bien, je pense qu'il y a une vraie question autour de ça qui pose, et ça pose des questions d'ailleurs aussi dans les mouvements sociaux, même en France, parce que je suis pas sûr que dans certains quartiers autour de Paris où on peut embarquer avec nous sur ces postures-là certaines populations qui n'ont pas le même rapport à la police ou qui vont pas être accueillies de la même façon.
Attendez, ça veut dire que au fond l'environnement culturel et politique va contraindre d'une certaine manière la sociologie des militants écologistes.
D'une certaine façon. Et ça, je pense qu'il y a une vraie question à aborder là-dessus, c'est qui en emmène avec nous. Parce que c'est encore quand même des luttes qui n'emmènent pas trop, qui ne sont pas ultra multiraciales. Je parle pour l'Europe, parce que moi, ayant travaillé pas mal au Brésil, je vois très bien aussi que ces luttes de désobéissance civile assez radicales, elles amènent aussi en face des réponses extrêmement radicales, où on est vraiment en danger.
On prend pas les mêmes risques.
On est en danger. Donc en fait, je pense que ça joue aussi sur la réponse en face. Il y a quelque chose qui se joue là-dessus. Mais je pense qu'on est dans un mouvement, dans quelque chose cette notion de danger, elle est en train d'émerger aussi pour tout le monde.
Mathilde Autre-Boutonnet, sur cette question de la sociologie, au fond, des militants verts.
Oui, c'est vrai que les modes d'action, évoluent. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple...
Et conditionnent les profils qu'on retrouve dans ces luttes.
Oui, je pense. Effectivement, dans toutes ces associations militantes, ce ne sont plus les mêmes profils. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez tout à la fois des associations qui, véritablement, leur but, c'est l'écologie, et qui sont composées de militants écologistes. Et pendant longtemps, ces associations comme Greenpeace ont effectivement agi en ne respectant pas la loi, donc par exemple en entrant dans une centrale nucléaire, donc là volontairement. Et puis maintenant, vous avez des associations qui, au contraire, s'appuient sur le droit. Et ces associations, elles sont également composées de juristes. Donc elles trouvent leur force non pas dans la dérogation au droit, mais au contraire dans la volonté d'appliquer le droit. Alors je pense à l'association en matière de climat qui s'appelle Notre Affaire à Tous, qui a porté le récent recours dans l'affaire du siècle. Et effectivement, c'est une association qui est composée de juristes. Mmh. Et maintenant, Greenpeace également a des juristes militants, alors qu'au départ, les juristes servaient... D'ailleurs, c'est vrai qu'au départ, Greenpeace avait essentiellement des juristes en dehors, des avocats en dehors.
Maintenant, ils sont des membres à part entière.
Oui, leur rôle de ces avocats, c'était de les défendre quand ils allaient en justice.
Alors que maintenant, ils sont carrément intégrés.
C'est ça. Voilà.
Denis Chartier.
Je voudrais dire quelque chose par rapport à ça. C'est vrai que le Greenpeace, ça fait quand même un moment qu'ils se sont bien rendus compte qu'il y avait des lois et qu'en en fait, il fallait juste peut-être travailler à les faire appliquer.
C'est
parce que les lois, elles sont des fois un peu plus en avance que ce qui est vraiment mis en application. Et ça fait même 10, 20 ans qu'il y a une vraie... On essaye de mobiliser le droit.
Voilà. Bon, c'est vrai que c'est intéressant parce que le droit est vraiment devenu, sur ce point, une arme du militantisme.
Denis Chartier, il y a une question que je me pose, c'est que il y a évidemment une multitude d'associations, d'ONG qui luttent pour sauver la planète, pour lutter contre le dérèglement climatique. Mais est-ce qu'elles sont bien coordonnées les unes avec les autres? Je veux dire, par là, est-ce qu'on a pris conscience aussi que ce combat-là était un combat transnational et que donc il fallait se mettre d'accord sur des stratégies communes, sur des modalités d'action communes, ou est-ce que vous diriez que en l'état, on n'est peut-être pas encore à un degré de coordination et d'harmonisation qui serait nécessaire?
Non, c'est très clair. Il y a, quand je parlais des débats qu'il y a au sein de tous ces mouvements entre on est pas assez ou radical ou trop, je sais pas quoi, dans la réformiste, etc. Ça crée à l'intérieur de ces mouvements des débats qui des fois sont même neutralisants. C'est-à-dire qu'en fait, on passe beaucoup de temps à se critiquer dans notre pureté en fait de militants plutôt que d'avancer. Et je pense que là aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de volontés de convergence. Et je pense que le futur est là. En plus, je pense très clairement que c'est pas les mouvements, la radicalité, qui est quand même ceux qui sont extrêmement radicaux, qui peuvent aller jusque ce qui se passe dans certaines luttes dans les ZAD où on occupe un territoire, etc. Je pense que là, il y a il y a une volonté de mettre tout ce petit monde ensemble et de dialoguer et de respecter aussi les chemins de chacun dans son militantisme. Mais c'est très dur à mettre en place. C'est extrêmement difficile à mettre en place.
Pourquoi c'est si dur? Parce qu'après tout, on vise tous la même chose.
Oui, mais c'est
peut-être... Ils visent tous la même chose.
C'est peut-être ça, en fait. Il y a aussi, je pense que c'est l'objectif commun qu'il faut peut-être aussi clarifier. C'est le monde dans lequel on veut être. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut être dans un monde vraiment de commun ou de cohabitation avec les humains, les non-humains, où on repense complètement les modèles, le rapport à la propriété, etc. Ou est-ce qu'on veut être dans un monde qui est plutôt de métamorphose du système actuel? Voilà. Et en fait, il y a une définition des mondes dans lesquels on veut être, qui à mon avis doit être clarifié et finalement, mais quand même, je crois que globalement l'objectif en tout cas de préservation du vivant, de lutte contre le changement climatique, il est le même, et le moment n'est pas, à mon avis, le moment n'est pas au jugement des uns et des autres, mais plutôt à une entente sur comment on s'alimente les uns et les autres, et en fait, comment chacun peut apporter à la lutte, parce que chacun a une position, à mon avis, stratégique dans le dispositif. Je pense que les marches climat, je termine là-dessus, mais sur les marches pour le climat, il y a Vincent Verza qui était dans l'affaire du siècle, c'est quelqu'un qui a un blog, etc., qui en fait a fait un petit, dans un blog, un petit truc YouTube, on dit on s'est planté sur les marches climat. Et en fait, il dit on s'est planté parce que lui, c'est lui aussi qui a lancé la pétition pour l'affaire du siècle, etc. Et ils sont arrivés très vite à 1 million, et puis il disait dans une conférence, il dit on est arrivé à 1 million, on savait pas quoi faire, on dit on va faire 2 millions. Et en fait, rien que ça, c'est problématique dans nos dynamiques. Même pareil pour les marches, en fait. On dit, en fait, on ne fait pas peur. C'est des modalités d'action qui, maintenant, sont un peu neutralisées. Donc, il faut, en fait, qu'on... Et eux, là, il y a un mouvement en disant, alors on va aller voir les plus radicaux et on va voir avec eux comment on peut travailler ensemble. Mais je pense que tout ça, en fait... Mais ces marches sont importantes pour ceux qui arrivent, en fait, dans la lutte.
Voilà. Mathilde Autreau-Boutonnet, à propos de cette coordination, parce que, évidemment, dans le cas des contentieux climatiques, c'est absolument clair. Les ONG, les associations se rassemblent pour poser des recours. Dans le cas de l'affaire du siècle, c'est le cas. Et on a 4 ONG qui se sont rassemblées. Sauf que, jusqu'à preuve du contraire, ce sont toutes des ONG françaises. Donc, peut-être qu'il y a effectivement une coordination, une bonne coordination au niveau national. Il n'empêche qu'au niveau transnational, on ne voit pas apparaître véritablement d'action globale. Est-ce que là, on n'a pas encore un manquement et une marge de manœuvre?
Oui. On repose la même question que Nicolas Hulot, c'est est-ce que la société civile est suffisamment structurée finalement sur ce point. Alors les ONG, effectivement, vous avez des ONG maintenant qui
sont bien, un tout petit peu du micro,
qui sont bien connues, qui agissent devant le juge français, mais il faut pas oublier que vous retrouvez une multitude d'ONG à travers le monde, qui, elles aussi, agissent. Et ces ONG, elles dialoguent entre elles, via, certes, les membres, mais aussi via les avocats. Donc, je pense
Et on développe des stratégies communes qu'on applique ensuite à des échelles nationales.
Oui, alors, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, vous pouvez trouver des avocats qui, tout à la fois, sont le soutien juridique d'une ONG aux Pays-Bas, mais qui en même temps, ce même avocat va être également le conseiller juridique de l'association qui porte son action en Belgique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous avez également une sorte de dialogue et de circulation des arguments juridiques qui ont marché dans un pays et qui pourraient ensuite marcher dans un autre pays.
Alors venons-en justement à un cas pratique, Mathilde Autreau-Boutonnet, l'affaire du siècle, je le disais, 4 associations, donc Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace France et Oxfam France, qui ont annoncé leur intention d'entamer un recours en justice contre l'État pour inaction face au changement climatique. Le recours a été posé là très récemment. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots la démarche, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, nous dire si elle a des chances d'aboutir, et puis nous rappeler en gros ce que l'on peut en attendre, parce que en termes de droit, où est-ce qu'on peut attaquer? Enfin, sur quel raisonnement des juges mise-t-on pour obtenir une condamnation?
D'accord. Alors j'apporte juste quand même une petite précision à votre question. Ça, c'est l'affaire la plus médiatisée. Et c'est vrai que c'est celle que l'on voit beaucoup apparaître. Mais il ne faut pas oublier qu'à côté de cette affaire, vous en avez d'autres qui sont tout aussi importantes, simplement peut-être un peu moins médiatisées, qui sont celles qui sont portées par le maire de Grande-Synthe. Simplement ici, la différence, si on est dans la technique juridique, c'est que le fondement, c'est la responsabilité. On veut rendre responsable l'État. Donc, on recopie un peu ce qui a marché à l'étranger, par exemple dans la célèbre affaire qui a été rendue aux Pays-Bas qui s'appelle Urgenda.
Je vais vous faire un travail de description aussi sur cette affaire.
Ah bon, d'accord. Parce que, voilà, on se dit ça a marché à l'extérieur, donc ça peut peut-être marcher. Et l'idée, c'est laquelle? C'est finalement d'invoquer ce qu'on appelle, alors je vais faire simple, la carence fautive.
Alors c'est quoi la carence fautive?
La carence fautive, c'est effectivement de nous dire que l'État n'a pas agi ou n'a pas suffisamment agi en matière de changement climatique et donc qu'il peut en découler certains préjudices. Des préjudices certes causés à l'homme, mais aussi des préjudices causés à la nature. Alors ça va être évidemment difficile, parce que c'est toujours la grande difficulté, c'est de démontrer si l'État lui-même avait la possibilité d'agir plus, comment il a agi, qu'est-ce qu'il devrait faire.
On est là précisément au cœur du débat, Mathilde Autreau-Boutonnet, parce que dire que l'État n'a pas assez agi, c'est quasiment un jugement moral. Sur quel raisonnement juridique va-t-on s'appuyer pour dire qu'il n'en a pas fait assez? Il va bien falloir dire à un moment, on s'était engagé par exemple sur, oui, avec cette loi-là, sur...
Tout à fait.
Donc c'est ça, parce que...
On regarde les lois, on regarde les normes.
Alors, lesquelles?
Alors, on regarde par exemple la stratégie nationale bas carbone. Cette stratégie nationale elle-même, elle était chiffrée. Donc on le vérifie si les chiffres ont bien été respectés. Par exemple, alors on peut prendre un standard, hein, le standard qui revient, c'est tout le temps le même, celui qui a été proposé par l'accord de Paris et qui est soutenu par le GIEC. Est-ce que il permet d'éviter l'élévation des températures au-delà de en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel?
Ou encore, est-ce que la France a respecté la directive européenne de 2012 sur les objectifs 2020, oui ou non?
Et ça,
voilà, c'est sur ce type d'argument qu'on va s'appuyer. Alors, le cas Urgenda, je vous fais encore un petit peu travailler, Mathilde Outreau-Boutonnet. 2015, cette fameuse affaire, donc Urgenda du nom de l'ONG, un tribunal est saisi par cette ONG. Vous nous présentez en quelques mots l'affaire, parce que celle-ci, elle est particulièrement notable, symptomatique justement de ce qu'on peut faire avec ce genre de contentieux climatique.
C'est la première grande affaire en fait, c'est la première grande affaire, enfin j'allais dire médiatisée plutôt, du côté européen. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres affaires et que les autres, elles sont essentiellement du côté du continent américain, mais il y en a plusieurs en même temps qu'en fait cette affaire hollandaise. Ce qui est intéressant dans cette affaire, du coup je reviens sur la mobilisation puisque c'est quand même notre sujet, c'est le fait que vous avez à la fois une grosse ONG puissante et Urgenda et des citoyens, plus de 800 citoyens qui vont se réunir, et seule l'association elle-même d'ailleurs sera recevable à agir. Pour la première fois, les Pays-Bas vont être condamnés parce que le juge estime qu'il ne fait pas assez et qu'il doit revoir ses réductions de gaz à effet de serre à la hausse, au nom, alors là aussi, il y a plusieurs arguments juridiques, mais parmi ces arguments juridiques, il y en a qui est important, c'est au nom de sa due diligence, de son devoir de vigilance, et le fait finalement de ne pas nuire à la population et ne pas nuire, j'allais dire de manière générale, aux générations futures, au climat. Et cette décision, elle a été donc confirmée ensuite par la Cour d'appel très 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 récemment. Et c'est un peu cette décision
pour aller
qui...
au bout, pardon, Mathilde Autreau-Boutonnet, effectivement, il y a la Cour d'appel, mais l'État s'est pourvu en cassation, donc en réalité, c'est pas fini.
C'est pas fini, l'État lui-même, si vous voulez, après vous avez la décision certes juridique, mais l'État quelque part, j'allais dire, je dis pas qu'il est condamné socialement, mais l'affaire est tellement médiatisée que il agit et il doit nécessairement agir. Ces procès sont pas là seulement pour obtenir
absolument.
Important de bien le faire comprendre. À mon avis, ces procès ne sont pas là uniquement pour obtenir
des
décisions et des condamnations favorables aux victimes. Elles sont là parce que ça permet, ils sont là parce que ça permet de médiatiser et quelque part d'être un risque de menace pour l'État. Quel État aurait envie de se faire condamner?
Et vous avez raison, puisque ça marche, puisqu'une loi de réduction d'émissions de gaz à effet de serre a été votée entre-temps, bien qu'au fond l'affaire ne soit pas terminée sur le plan purement de la justice. Donc ça a eu un effet, même si le gouvernement néerlandais rejette l'idée que les deux sont liés.
Oui,
c'est quand même là. Denis Chartier.
Oui. Je pense que ce qui est intéressant, en fait, c'est vrai que c'est l'appel au droit, en fait, ici. Il est clairement pour mettre l'État en face de ses responsabilités, ce qu'essaye de faire tout le monde actuellement de façon extrêmement, de plus en plus radicale. Et pour moi, en fait, l'État, les institutions internationales, etc. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, et ça fait un petit moment que c'est dans les tuyaux, c'est-à-dire qu'on voit très bien que les mouvements de la société civile qui essayaient de travailler avec les instances internationales dans les grandes conférences internationales à qui on a laissé une grande place depuis Rio, etc. À la fin des années 2000, ils se sont aperçus en fait qu'elles servaient en fait la machine et qu'elles n'arrivaient pas de l'intérieur à faire vraiment bouger les choses. Et c'était vraiment fort à Rio, avec toute une équipe de chercheurs, on était faire une ethnographie et on a bien vu qu'il y avait une claire séparation avec l'assemblée de la société civile qui était un peu séparée de la grande conférence et qui disait bon comment on se réorganise pour impacter et puis ceux qui allaient dedans et qui étaient en train de dire même bon bah on n'y arrive pas ou le responsable de Greenpeace qui me disait à l'époque bah voilà en fait on est en train de ranger les chaises sur le Titanic alors qu'on est en train de couler quoi et en fait c'est ça et ce ressenti là il était très très fort et depuis il y a une vraie volonté de mettre en avant en fait voilà, d'autres modalités d'action. Et je pense et ça sert à ça aussi, en fait, parce que c'est un levier très important. Et je pense que c'est de Extinction Rebellion, une des revendications, c'est de mobiliser, une mobilisation civile et solidaire, comme si on était en état de guerre. C'est-à-dire qu'on soit, et on dit on y va, comme ça. Et tous ensemble, et avec nos façons de faire différentes, mais on est en guerre. Et donc on utilise toutes les armes et tous les degrés d'action qu'on peut, et modes d'action qu'on peut.
J'allais dire contre l'État, mais si je peux juste ajouter quelque chose, ce n'est plus seulement contre l'État. C'est également contre les entreprises. Alors bien sûr, dans la rue, avec Extinction Rebellion, mais aussi devant les tribunaux.
Sauf qu'il y a quand même une question sur laquelle je voudrais vous entendre à propos des poursuites de l'État. Parce que, je le disais, cette affaire, elle n'est pas terminée. L'État s'est pourvu en cassation. Et le gouvernement néerlandais, justement, se pourvoit en cassation afin, je cite, de soumettre à la Cour suprême la question de principe relative à la manière dont la justice peut examiner les choix politiques du gouvernement. Donc, c'est très important.
C'est un gros
parce
problème.
Que ça veut dire que, au fond, ce que remet en cause l'État, c'est pas forcément le fait qu'effectivement il a peut-être pas tout fait.
Questions de procédure.
C'est des questions de procédure. Et c'est la question de quelles limites on pose aux juges pour infléchir les politiques. Parce que, après tout, les juges ne sont pas faits pour faire des lois. On a des législateurs pour ça et c'est comme ça que fonctionne notre démocratie. Oui. Alors, est-ce qu'on n'a pas quand même un problème là est-ce qu'il va pas falloir à un moment peut-être encadrer justement le pouvoir des juges qui se retrouvent en capacité de tordre le bras de nos législateurs? Il y a un vrai souci là.
Il est déjà largement encadré. Et ce qui est important, c'est que dans toutes ces affaires, si vous voulez, bien sûr, vous avez la société qui se mobilise devant les tribunaux. Mais bien évidemment, c'est pas simple. Ça veut pas dire qu'elles voient leur action recevable et qu'au bout du compte, l'action sera également ce qu'on appelle à la fin bien fondée. Il y a des obstacles importants à la procédure. Le premier obstacle, c'est que dans tous les pays du monde, sauf exception, il y a toujours des exceptions en droit, on ne peut pas défendre une cause sociale devant le juge. On n'est pas là pour ça, on est là pour défendre nos propres intérêts. Mais attention, je dis, il y a toujours des exceptions, bien sûr, en droit. Donc, quand on défend l'environnement, on défend comme ça une grande cause. Et pour défendre une grande cause, généralement, on vote ou, effectivement, on manifeste dans la rue. Donc, faut pas confondre le rôle du juge. Il n'est pas là pour changer totalement le modèle social et écouter toutes les personnes dans la rue.
J'entends, mais il n'empêche que c'est ce qu'il produit dans le cas d'urgence.
Exactement. Et le deuxième grand obstacle sur lequel vous êtes revenu, c'est qu'effectivement, le juge lui-même peut tout à fait décider qu'il y a la séparation des pouvoirs et qu'il ne peut juger des lois qui sont votées dans son pays. Alors cet obstacle, il est vraiment très important dans certains pays, comme aux États-Unis. Vous avez effectivement une grande partie des procès qui ont pris fin aux États-Unis parce que le juge applique la doctrine de ce qu'on appelle la question politique. C'est un choix social. Je n'y ai pas répondu. Il y a eu des lois pour ça. Je ne m'en mêle pas. La séparation des pouvoirs qui est plus ou moins stricte selon les États.
Denis Chartier.
Là, en fait, ce qui est intéressant dans ce qu'on est en train de dire, c'est qu'aussi on s'inscrit dans des processus, des dynamiques, de décision, dans un cadre démocratique extrêmement... qui pose problème aujourd'hui à beaucoup en fait de militants. C'est-à-dire que en fait ils se disent c'est bien, il faut le faire, il faut mettre l'État en face des responsabilités, mais c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème parce que de toute façon si on fait confiance au processus démocratique. Voilà, on va pas y arriver parce qu'on est plutôt dans des oligarchies maintenant, parce que on voit très bien comment on n'a pas pris du tout en compte la question de la place des réseaux sociaux comment on va fabriquer, construire des votes, et amener des élections, de mouvements qui sont très anti-écolo. Donc on se dit en fait on utilise les mêmes moyens on est en train de, en fait il y a une question. Là, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut questionner en fait les modalités et c'est questionné par ces mouvements de fonctionnement même de nos démocraties aujourd'hui, parce qu'il y a un vrai problème, il y a un problème de fond avec des choses qu'on n'a pas du tout vu venir et qui permettent l'arrivée des gouvernements.
Effectivement, le droit n'est pas toujours.
Mais ça veut dire, parce que vous disiez par rapport aux États-Unis qu'effectivement, souvent les juges disaient, je ne m'en mêle pas parce que ce sont des questions politiques. Est-ce que ça veut dire que derrière ça, il y a aussi l'idée peut-être, et ça sera ma dernière question. Ensuite, on va partir du côté de la Guyane, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait des cultures du droit différentes, et évidemment différentes bien sûr, mais plus propices à faire aboutir les contentieux climatiques. À très grand trait, on peut dire, voilà, il y a le droit anglo-saxon, il y a le droit romano-germanique. Bon, à très grand trait, on peut discuter évidemment toutes ces typologies, mais est-ce qu'il y a cette idée-là aussi que certaines cultures juridiques sont plus propices à ce genre de contentieux?
Oui, peut-être, il faudrait vérifier, regarder de plus près, mais effectivement, vous avez différents systèmes juridiques dans le monde, avec beaucoup de similarités. On retrouve ce principe de séparation des pouvoirs un peu partout, mais il est vrai qu'aux États-Unis, il est vraiment invoqué de manière assez forte dans... Alors, il y a des évolutions, le juge commence à évoluer. Et c'est d'ailleurs ça ce qui est intéressant, c'est que comme on est dans ce qu'on appelle un processus de common law, un juge est de précédent, un juge qui évolue aux États-Unis peut faire évoluer les autres pays de common law à travers le monde. Donc, vraiment, cette argumentation juridique et cette évolution du droit dans un pays, même sur cette doctrine-là des séparations des pouvoirs, peut tout à fait influencer un autre juge dans un autre pays. Donc, on revient à votre question du début, qui était la structuration de ces mouvements. Là, c'est vraiment important, parce que finalement, un avocat peut tout à fait, ou une association, ou un juriste, s'inspirer de ce qui a été fait dans un autre pays et ce qui a gagné.
On est avec vous, Denis Chartier, Mathilde Autreau-Boutonnet. On va prendre la direction de la Guyane tout de suite.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Ce que je sais du projet n'est pas compatible avec l'ambition que je viens de fixer. De manière très claire, aujourd'hui, l'état de l'art du projet ne le rend pas compatible avec une ambition écologique et en matière de biodiversité.
On sait que La République En Marche est en perte de vitesse au niveau des sondages. Il était important pour lui qu'il dise son positionnement sur la Montagne d'Or pour essayer de voir s'il allait prendre des voix aux écologistes. Nous ne sommes pas dupes. Nous considérons que notre combat sur la Montagne d'Or doit continuer. Non seulement il doit continuer, il doit s'intensifier, parce que la Montagne d'Or, si Monsieur le Président veut prendre une décision, il aurait pu la prendre tout de suite. Depuis la fin de l'année dernière, il devait dire déjà son positionnement, il le retardait.
Voilà, on avait donc cette annonce de suspension du projet Montagne d'Or par Emmanuel Macron, et puis ensuite Michel Dubouillet, qui est le porte-parole du collectif Hors de question, en trois mots, OR, plus loin de question. Je rappelle que le 12 février dernier, le tribunal administratif de Guyane a annulé l'exploitation de ce projet aurifère qu'on appelle de la Montagne d'Or, un projet qui fait polémique depuis de très nombreuses années. On va retrouver Théo Jacob, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur en ethnologie à l'EHESS et un spécialiste de la Guyane. J'ai dit quoi ?
Sociologie.
Bah voilà, ethnologie, pardon. D'abord, premier point, pourquoi les populations locales sont opposées à ce projet ? Qu'est-ce qu'on craint ? Quelles conséquences environnementales possibles ? À très grand trait, parce qu'on a un peu quelques idées, mais quand même, à très grand trait. Théo Jacob.
Bon, bah, à très grand trait, c'est évidemment, bon, je pense que c'est toute une logique d'aménagement du territoire par le secteur privé qui est aujourd'hui plus que mise en question, qui est aujourd'hui suscite le rejet des populations autochtones de Guyane, parce que évidemment, développer l'industrie minière à une échelle industrielle d'une exploitation qui essaie de Montagne d'Or, c'est envisager tout un développement corporatif du territoire à travers donc évidemment l'exploitation minière qui suppose un certain nombre d'impacts et notamment qui ont été là montrés à travers le désastre de Brumadinho où on a des eaux usées des eaux contaminées, une rupture de digue avec des eaux contaminées au cyanure qui se sont répandues. Donc voilà, ça c'est un risque direct de l'exploitation minière, mais avec toute une série aussi d'impacts qui accompagnent ce type d'aménagement du territoire, c'est-à-dire évidemment une fracturation du biotope pour développer la logistique et aussi évidemment développer un réseau électrique, d'électricité qui va permettre d'approvisionner ce projet.
Donc, c'est vraiment... donc des conséquences environnementales très très importantes, et c'est ça aussi qu'on craint. Sauf que c'est peut-être pas la seule chose. Quand on regarde justement ce groupe que j'évoquais, qui est l'un des collectifs les plus actifs sur cette question-là, Hors de question, j'aimerais comprendre qui on retrouve derrière ce collectif et si on se mobilise seulement pour des questions environnementales, parce que je crois comprendre qu'il y a d'autres enjeux, et notamment des enjeux d'accès aux fonciers. Théo Jacob.
Bah, évidemment, on est dans un territoire qui souffre, je dirais, d'une histoire évidemment coloniale. Donc, le rapport à la terre est extrêmement connoté. On est aujourd'hui, on parle d'un territoire où plus de 90% du foncier appartient à l'État. Et donc, évidemment, le projet Montagne d'Or, ça a été l'occasion pour les populations autochtones de faire valoir leur droit à une certaine forme de souveraineté territoriale. Et c'est aujourd'hui ça qui est en question, qui avait été déjà posé avant tout le débat public qui a eu lieu en Guyane en 2018, avec le mouvement social de 2016-2017, où les populations autochtones avaient formulé la volonté de se voir rétrocéder 400 000 hectares de terres qui seraient gérées directement par les communautés autochtones. Donc clairement, l'accès à la terre est un des points d'opposition très fort.
Mais justement, comment ça se hiérarchise, Théo Jacob ? Si on regarde les choses, il y a une ethnie qui est vraiment en première ligne dans cette contestation, c'est les Kalina, qui est une ethnie qu'on retrouve un peu sur toute la côte caribéenne, qu'on retrouve en Guyane, qu'on retrouve au Suriname et qu'on retrouve aussi au Brésil. Quand on regarde un peu les revendications de cette ethnie-là, comment on hiérarchise la question purement environnementale des conséquences de cette exploitation minière et la question du foncier? Pour le dire autrement, est-ce que si on considérait qu'au fond la répartition des richesses était mieux organisée avec cette exploitation d'or, est-ce qu'il pourrait éventuellement être d'accord pour cette exploitation, à condition bien sûr qu'il gère un certain nombre de choses sur le foncier? Enfin, vous comprenez la question, j'aimerais comprendre justement comment est-ce qu'on hiérarchise les choses dans leurs revendications, Théo Jacob.
Je pense que c'est très compliqué d'hiérarchiser les choses, comme je vous dis, sur un territoire où les revendications sont le fruit d'une histoire marquée par un enchevêtrement assez important de domination et d'oppression. En attendant, si vous voulez, effectivement, il ne faut pas généraliser en disant voilà, toute la communauté autochtone est contre le développement minier. Il y a des parties de la communauté autochtone qui posent leur accord à l'extraction minière de manière assez artisanale et confidentielle. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une population qui est la communauté Kalina qui est en pointe, mais qui est en pointe déjà depuis plusieurs dizaines d'années en Guyane en termes de lutte autochtoniste. Et aujourd'hui, effectivement, ce qui joue, c'est pas simplement un rapport à l'environnement, c'est aussi la capacité d'une communauté à pouvoir revendiquer une place plus grande sur l'échiquier politique guyanais, puisque des communautés autochtones, du fait de la hiérarchie coloniale, ont été reléguées à une position extrêmement marginale. Et c'est aussi là qu'il y a un basculement avec ce débat sur Montagne d'Or, c'est qu'on avait, il est de coutume en Guyane de moquer l'apathie des communautés autochtones, alors que justement, ce projet montre un véritable protagonisme là des communautés autochtones. Et évidemment, il ne faut pas penser que tout ça est extrêmement harmonieux. Évidemment, cette revendication autochtone, il y a un fer de lance. Ce fer de lance, c'est la communauté Kalina, et peut-être au détriment de la parole d'autres communautés.
Justement, c'est
la Guyane, disons.
Vous dites qu'ils sont en pointe, les Kalina. Ça fait longtemps qu'ils utilisent le droit, précisément, pour organiser leur lutte. On parle depuis tout à l'heure beaucoup des questions de contentieux climatiques. Ce sont des habitués de la chose?
Alors, et effectivement, l'entrée des Kalina en politique, elle s'est faite un peu sur le modèle de d'autres luttes autochtones qu'on a pu voir pointer dans les années 80 sur l'ensemble de l'Amérique latine, avec la volonté de s'outiller sur des connaissances procédurales extrêmement précises, avec la volonté vraiment de s'approprier les outils du droit pour faire valoir d'une certaine manière la radicalité de leurs demandes, mais dans une forme qui reste a priori raisonnable. Alors, ça a amené des concessions de la part de l'État, puisque les mobilisations autochtones, par exemple, dans les années 80 de la communauté Kalinia, ont permis notamment la création, enfin la reconnaissance par l'État de droits d'usage, c'est ce qu'on appelle les zones de droits d'usage collectifs qui existent en Guyane, mais qui ne sont absolument pas sécurisantes au niveau foncier, elles ne garantissent qu'un droit d'usage à une communauté qui est identifiée.
Toute dernière question, Théo Jacob. Pendant très longtemps, Emmanuel Macron soutenait ce projet. Il avait dit en 2015, quand il était ministre de l'économie de François Hollande, « Nous allons tout faire pour qu'un projet comme la Montagne d'Or voit le jour ». C'est d'ailleurs un message qu'on voit beaucoup, hein, relayé assez largement sur les réseaux sociaux, et notamment par ce collectif Hors de Question. Aujourd'hui, il semble avoir changé d'avis. Il considère que ce projet n'est pas compatible avec son ambition écologique. Est-ce qu'on lui fait confiance en Guyane pour réellement mettre un terme à ce projet, ou est-ce qu'on doute ?
Moi, je pense que, mis à part la position d'Emmanuel Macron, qui est extrêmement ambiguë, puisque quelle énergie n'a-t-il pas fallu dépenser pour faire vaciller un peu la volonté présidentielle qui était affirmée à l'époque où il était ministre de l'économie et d'une manière tout à fait hallucinante, puisqu'il a, sans consultation, avec voilà, de manière extrêmement unilatérale, il avait apporté son soutien au projet et au principe un peu théorique à mon goût de mine écologiquement responsable. Mais la confiance de la Guyane vis-à-vis d'Emmanuel Macron, c'est plus le problème de confiance, il réside plutôt plus largement vis-à-vis de la France, si vous voulez. L'exécutif français a tendance à énormément atermoyer en Guyane, ce qui fait que je pense que localement, on est bien conscient que les annonces présidentielles récentes qui marquent quand même une prise de recul par rapport à l'enthousiasme originel peuvent être aussi une stratégie dilatoire qui aboutiront bon gré mal gré quand même à des concessions minières importantes, puisque au-delà de Montagne d'Or, qui est devenu le projet charismatique, il faut quand même bien dire que il y a un certain nombre de projets miniers avec des forts investissements internationaux qui sont aujourd'hui en train de se préparer.
Ouais, on distribue des dizaines, on distribue en réalité des dizaines de permis déjà outre ce projet-là. Hein.
Voilà, tout à fait.
Denis Chartier, peut-être réaction. Hein, c'est un cas que vous connaissez bien. Vous connaissez bien le Brésil. Vous êtes intéressé beaucoup à l'Amazonie. Donc, ce sont des luttes, des formes de lutte que vous connaissez.
Oui. Bah, en fait, ce que je trouve très intéressant dans ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, la proposition autour de cette Montagne d'Or est une proposition d'extractivisme assez classique qu'on retrouve un peu dans l'ensemble de l'Amérique latine, et ça se télescope complètement avec un discours pseudo-environnementaliste du gouvernement. Enfin, je veux dire, ça marque quelque chose d'assez fort à ce sujet-là, et ça marque aussi on est dans un autre monde, en fait, dans le projet, en fait, politique, économique, social, et dans le rapport qu'on a aux ressources. Voilà. Et l'autre chose que je peux peut-être dire, c'est que ce que je trouve intéressant dans la question que vous avez posée sur la question du foncier, d'essayer de hiérarchiser, je pense qu'aussi sur les Kaliniens, en fait, peut-être qu'ils hiérarchisent aussi eux pas du tout, parce qu'en fait, leur rapport au milieu, au vivant est vraiment très, très différent. Et que la réponse qu'ils apportent à ça, à mon avis, est à écouter et à regarder avec attention, parce que c'est peut-être des choses desquelles on pourrait un petit peu s'inspirer dans la façon dont on aborde ces questions-là. They have been killing off all my heroes since I was 17. And some have disappeared so mysteriously, never to be seen. Others have been lovingly laid out in a field of green. Like the old woman of the desert, the young surfer by the sea, the teachers of such pathways. Merci beaucoup à nos invités. Théo Jacob, qui était à l'instant avec nous par téléphone. Merci également à vous, Mathilde Autoreau-Boutonnet, d'avoir été avec nous ce matin, nous avoir éclairé sur ce droit de l'environnement. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Jean Moulin Lyon 3. Un grand merci également à vous, Denis Chartier. Vous êtes géographe et professeur à Paris 7 de Denis Diderot. Et puis, vous avez visiblement beaucoup aimé la musique qu'on entend. Alors, on va la mettre en lien sur la page de Culture Monde parce qu'elle est effectivement très jolie. C'est Fields of Green de Giant Sound. On met ça, évidemment, sur la page de Culture Monde. 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et vous nous emmenez en Ukraine ce matin, l'Ukraine qui a élu un président humoriste sans expérience politique. Que faut-il en penser, Brice ?
Ce qui s'est produit en Ukraine est tellement stupéfiant qu'il nous faudrait un baudrillard pour tenter de le comprendre. Le simulacre, c'est ce qui remet en cause la différence du vrai et du faux, du réel et de l'imaginaire. écrivait Baudrillard. Sous George W. Bush, une bonne part du public américain rêvait de remplacer le locataire de la Maison Blanche par le personnage incarné par Martin Sheen dans West Wing, écrit Nina Khrushcheva. Eh bien, les Ukrainiens l'ont fait pour de bon. Jamais, sans doute, dans l'histoire politique, on n'aura ainsi assisté à la victoire électorale d'un comédien qui joue désormais sur la scène politique le rôle qu'il a incarné dans une série télévisée. La fiction a fait irruption dans la réalité. Dans la série « Serviteur du peuple », Volodymyr Zelensky jouait le rôle d'un modeste professeur d'histoire promu à la présidence de la République pour lutter contre une classe politique corrompue. Et c'est précisément ce qui s'est produit le mois dernier en Ukraine. Zelensky, qui ne disposait d'aucun parti, qui n'a pas proposé de programme, a été élu au deuxième tour de la présidentielle avec un score exceptionnel de 73% contre le président sortant, Petro Poroshenko. Mieux, Zelensky n'a pas non plus vraiment fait campagne. Il s'est comporté, écrit Peter Dickinson dans Foreign Affairs, comme un candidat virtuel, évitant les traditionnels meetings, les talk-shows et les interviews de presse, et leur préférant les spectacles humoristiques et les concerts, les messages très au point sur les réseaux sociaux et des apparitions soigneusement organisées sur les chaînes de télévision amies. On peut s'estimer que les électeurs ukrainiens ont saisi avec Zelensky l'opportunité de se débarrasser d'une classe politique qui les exaspérait. Petro Poroshenko, ancien héros du soulèvement démocratique de l'Euromaïdan, a fini en créature des oligarques qui tiennent le pays. Contre lui, les électeurs ont choisi l'acteur qui jouait le rôle du chien dans le jeu de quilles des grands, en toute conscience du caractère dérisoire de leurs gestes. Le dégagisme, observé ailleurs, s'accompagne ici d'un pied de nez provocateur adressé aux élites. L'Ukraine, il faut le savoir, est le pays du monde où la confiance de la population dans les autorités est l'une des plus basses, 9%.
Alors Brice, que penser de cette série télé « Serviteur du peuple » qui est aussi par ailleurs le nom du mouvement politique qui l'a conduit à la tête de l'État?
Peter Pomerantsev, un journaliste britannique né en Ukraine, rappelle que cette série, donc « Serviteur du peuple », renouait avec le style des films soviétiques de la fin des années 70. On y mettait en scène des héros incarnant la décence, la loyauté et l'amitié, confrontés à un monde devenu dur et cynique. Le professeur Golo Borodotko, dans « Serviteur du peuple », qui vit dans le petit appartement de ses parents, la nuit, eh bien, Plutarque et le président américain Lincoln lui apparaissent dans ses rêves et lui donnent des conseils. Il représente, si vous voulez, la vertu qu'Orwell appelle la décence commune, opposée au cynisme des élites. Alors les Ukrainiens qui ont élu Zelensky, écrit encore Pomerantsev, ils l'ont élu parce que depuis son accession à l'indépendance en août 91, le pays, l'Ukraine, est en quête d'identité. Dans un premier temps, il a replongé dans la mémoire douloureuse des atrocités subies au cours du XXe siècle, l'Holodomor de 1932-33, cette famine organisée par Staline pour punir les paysans ukrainiens de résister à la mise en kolkhoz qui a fait mourir de faim 5 à 6 millions d'Ukrainiens. La mémoire du combat mené pour l'indépendance pendant la guerre par un peuple coincé entre les soviétiques d'un côté et les nazis de l'autre. Cette identité post-coloniale, le président sortant Poroshenko l'avait résumée en un slogan « armée, langage, nation ». Zelensky, lui, parle mal l'ukrainien. Il est russophone. Il est juif, comme d'ailleurs le premier ministre Volodymyr Roitsman. Au fait, qu'en pensent les propagandistes russes qui nous assuraient que l'Ukraine demeurait un pays profondément antisémite? Et, écrit Peter Dickinson, une entière génération d'Ukrainiens a littéralement grandi et atteint l'âge adulte avec lui, avec Zelensky. Il a l'aura d'un vieil ami, il incarne une identité ukrainienne tournée vers l'avenir, vers l'Europe, et non pas douloureuse et victimisée. À peine investi, Volodymyr Zelensky a annoncé la dissolution du Parlement ukrainien. Il a créé, vous le disiez, son propre parti, Serviteur du peuple, le titre de la série télévisée qu'il a fait élire. Et à présent, il est attendu au tournant. Sera-t-il à la hauteur de son propre personnage de fiction ou confirmera-t-il les soupçons de ses adversaires qui le présentent comme une marionnette agitée pour les besoins de ses propres affaires par un oligarque? Igor Kolomoïski, propriétaire notamment de plusieurs chaînes de télévision ukrainiennes, a beaucoup contribué à l'élection de Zelensky. Alors celui-ci va-t-il casser le système, comme il l'a promis, en luttant contre la corruption qui ronge l'économie et la morale publique dans son pays? Ou bien trahira-t-il la confiance à la fois des électeurs et des téléspectateurs de la série Serviteur du peuple.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.